Et la plus belle expérience que j'ai eue, c'est avec Michel Robidoux. Dans mon livre, à un moment donné, je parle de la chanson « Le Petit Roi ». Mm-hmm. Et j'étais absolument pas informé de comment elle était venue au monde. Mais j'étais si sûr de mon coup dans la vision que j'ai de comment une chanson vient au monde, que j'ai dit dans mon livre que probablement que Ferland a donné telle consigne à Robidoux, le compositeur, quand il lui a remis le texte. La consigne étant, voici la première phrase de mon texte. Dans ma tête et dans mon cœur, il y avait autrefois un petit roi. Et j'ai dit dans mon livre que probablement l'auteur, Ferland, a dit au compositeur, es-tu capable de faire une phrase musicale aussi longue que le texte que je te donne? Robidoux est venu me voir au lancement, il dit, t'es sorcier ou quoi? Il dit, comment ça se fait que tu savais ça? Il dit, je savais pas, je l'ai juste déduit. Il y a des choses évidentes comme ça. Il suffit juste d'avoir les idées assez claires et de se les formuler de telle sorte qu'à un moment donné, 2 et 2 doivent donner 4. Il ne faut pas en rester à 2 et 2. Il faut que ça donne 4.
Maintenant, je vous suis bien, mais pendant le petit exercice qui est notre entretien, je vais quand même soulever des oppositions qui pourraient être donc formulées à propos de ce que vous avancez.
Moi, j'aime bien le ping-pong intellectuel comme ça.
Bon, c'est ce que j'ai compris. Premièrement, tout à l'heure, on parlait des idées. Bon, est-ce que j'ai l'impression, moi, c'est une idée peut-être un peu naïve, mais j'avais l'impression que, surtout dans le monde du rock, on faisait reposer l'éclair de composition sur la découverte d'un riff, par exemple. Et donc, en disant ça, je me trouve à mettre l'accent sur la musique avant tout. Ce que vous dites là, ça va un peu à l'encontre de cette vision.
Je pense que dans l'idée primale ou primaire d'une chanson, c'est-à-dire le feeling qu'on a avant de commencer à écrire, il y a tout ce qu'il faut pour faire les choix subséquents, même quand les choix subséquents donneront un produit où la musique est dominante. Ça ne change rien. Là. Puis il faut avoir une idée claire de ce qu'on veut avant de commencer à écrire un riff. Là. Que ce soit le riff ou n'importe quelle autre composante, il faut avoir une idée de l'effet final qu'on veut produire sur l'auditeur. Quand je parle de l'idée, là, je pourrais la décrire de l'extérieur en disant qu'est-ce qu'une idée de chanson? C'est l'idée qu'on a de l'effet qu'on veut faire ultimement
chez l'auditeur.
C'est comme si quelqu'un
disait, moi, dès les premières mesures, je veux que l'auditeur se sente déstabilisé, ou encore, au contraire...
Quel que soit l'effet qu'on veut faire.
Enveloppé dans de la ouate, ça pourrait être ça aussi.
Ça peut être n'importe quoi. Il faut juste avoir les idées claires sur, non pas les mots, non pas les notes, mais sur l'effet que tout ça doit produire. Et j'invente rien. Quand Jean-Sébastien Bach écrivait, là, puis il fallait qu'il écrive une cantate par semaine, là, son boss, là, parce que Jean-Sébastien était à salaire, puis il fallait qu'il sorte pour la messe du dimanche de la belle musique neuve à peu près tous les dimanches. Sa job, c'était de faire prier le monde, là. Trompons-nous pas. Que, peu importe l'état d'esprit dans lequel Jean-Sébastien se retrouvait, qu'il soit de mauvaise humeur, en amour, lassé ou n'importe quoi, fallait qu'il produise pour le dimanche d'après une musique qui fasse prier les gens et qui les mette en état de contemplation religieuse et, si possible, de grande affection pour le boss, pour son boss. Donc, son idée était ni plus ni moins imposée, là. C'est clair. Lui n'avait pas besoin d'avoir...
De se creuser la tête
quel feeling donner, quoi qu'il y avait toutes sortes de variantes, il fallait qu'il y ait une idée pareille, parce qu'il y a bien des manières de mettre les gens en état d'extase religieuse, tu sais, que ce soit la cantate 144 ou la messe en si mineur, c'est des effets différents. Il fallait quand même qu'ils choisissent parmi l'objectif général de rendre les gens pieux et croyants et asservis au boss. Et au pape et à Dieu. Enfin, non, pas au pape, parce qu'il n'était pas catho. Non. Mais enfin, bref. Vous me suivez?
Maintenant, c'est une des choses que vous proposez, vous parliez tout à l'heure de la définition même de la chanson. On peut commencer avec ça aussi. Vous dites que la chanson est un art essentiellement populaire. Comment doit-on...
Non, nuance. La chanson qui m'intéresse est populaire. Mm-hmm. Si vous m'apportiez une chanson de Schubert, qui est aussi une chanson, ça ne m'intéresse pas. Mm-hmm. Parce que ça, c'est de la chanson savante, la chanson élitiste, qui a tout plein de vertus et de qualités. En seulement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, un, la chanson, donc un certain nombre de formes, populaire, donc on parle de son effet. Mm-hmm. Donc, populaire, ça veut dire...
Mais est-ce que ça veut dire que ça rejoint le plus grand nombre d'individus?
Fatalement, il n'y a rien. Dans le mot populaire, il y a fatalement la notion de grand nombre. Mm-hmm. Si je dis la chanson élitiste, c'est la notion de petit nombre. C'est l'un ou c'est l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la chanson populaire.
Ouais. Mais dans populaire, il y a aussi la notion de peuple. Est-ce que vous entendez ça de cette manière-là aussi?
Oui, et même obligatoirement, de la même manière qu'une comédie de Molière est populaire.
Mais à ce moment-là, est-ce que le problème qui se pose à moi à propos de cette notion-là, c'est le fait qu'on puisse la confondre aussi avec ce qu'on appelle la culture de masse. Pour vous, c'est l'équivalent, le populaire et la culture de masse?
Il faut, bien sûr, mais attendez, à une nuance près. Quand je dis populaire, je dis tout le monde, y compris ceux qui ont 20 ans de scolarité ou 6 ans de scolarité.
D'accord.
Le peuple, c'est pas juste un petit bout, là.
C'est pas une classe sociale, c'est pas les prolétaires.
Non. Je n'ai pas dit de la chanson fast-food ou... la meilleure chanson n'est pas du McDo. Jamais.
Non. Mais il me semble que c'est un phénomène assez improbable aujourd'hui. La société est tellement fragmentée et même de rejoindre toutes les classes de la société, qu'une chanson fasse l'unanimité au sein de la société, toutes classes confondues, et puis quel que soit le degré de scolarité ou quelles que soient les exigences en matière de musique, par exemple.
Pourquoi vous dites ça?
Ben, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que la société aujourd'hui est fragmentée non plus en termes de classe sociale, comme on la voyait autrefois, mais la musique elle-même, le champ même de la musique populaire, s'est subdivisé en plein de catégories, et qu'il y a un public, par exemple, pour le heavy metal, et un public pour la chanson « Savon », il y a un public pour...
Pour moi, heavy metal et tout ça, c'est des catégories HMV. C'est juste des différents casiers dans les magasins de disques. C'est pas fondamental. Quant à savoir si la fragmentation...
Pourtant, il y a des gens qui s'identifient à cela.
Bien sûr, comme il y a des gens...
Dans les cours d'école, c'est courant, on sait bien. Toi, t'es un hip-hop,
les Beatles et les Stones appartenaient à deux mouvances très différentes, les mods et les rockers, et soi-disant que ça devait pas se parler, ce monde-là. Mm-hmm. Or, 30 ans plus tard, on sait que c'est toute la même chose. Là. Arrêtons de donner des étiquettes aux gens, là, c'est toute la même chose. Donc, la vraie réponse à votre question, c'est on se retrouvera dans 10 ans. Mm-hmm. À mon avis, parce que moi, je recule 10 ans, et je vois que les choses qui étaient fragmentées il y a 10 ans, de ça... sont apparues des œuvres qui ont fait consensus. C'est clair.
Ouais.
Donc, aujourd'hui, il apparaîtra ou il apparaîtra pas dans 10 ans. Autrement dit, je ne peux pas discuter avec vous là-dessus. Là, faudrait faire un grand saut dans l'avenir de 10 ans pour voir si votre vision va se matérialiser. À mon avis, ça serait exceptionnel parce que ça ne s'est jamais passé que la chanson populaire soit autre chose que populaire. Soit autre chose que consensuel. Mm-hmm. Et peu importe les formats. Mm-hmm. C'est parce qu'au fond, ce dont vous parlez, là, c'est des formats. C'est pas de l'objectif. L'objectif, c'est de faire frissonner le monde. Mm-hmm. Et moi, je prétends...
Mais les moyens pour y arriver sont pas tous les mêmes.
Non. Ils sont pas les mêmes. Ils rejoignent tous le même objectif. Regardez la grande... Mettez la population la plus... prolétaires que vous voulez, devant l'hymne à la joie, puis ils vont tous frissonner. C'est clair. D'ailleurs, on le voit, il y a combien de films qui utilisent l'hymne à la joie, qui utilisent le truc de Strauss dans Space Odyssey. D'accord, ils étaient 3 à le connaître avant le film, mais le lendemain, ils étaient 3 milliards. C'est juste qu'ils n'avaient pas été exposés à ce chef-d'œuvre-là. Mais un chef-d'œuvre, vous le mettez devant n'importe quel auditoire à l'intérieur d'une même culture musicale. Je suis sûr que vous mettriez un moine tibétain devant la 9e, puis peut-être il ne flippera pas parce que ce pas sa culture musicale. Mais à l'intérieur, mettons, de l'Occident élargi, là, moi, je prétends que toutes les grandes œuvres sont capables de faire frissonner la presque totalité des gens. Et by the same token, une grande chanson, peu importe son format, que ce soit Satisfaction ou La mère de Charles Trenet, va faire frissonner les masses.
Ça, c'est... Je sais pas. Il me vient à l'esprit certains grands succès de Céline Dion, par exemple, qui font pas l'unanimité, qui se vendent à des millions d'exemplaires.
Vous mélangez deux choses. Là. Le succès immédiat quantitatif sur une période de 5 ou 6 mois, là, et ce dont je vous parle, qui est pas juste le succès, mais le succès plus l'enracinement dans la mémoire sonore collective. C'est la clé, là.
Ouais.
La clé.
Et d'ailleurs, vos analyses reposent sur les grands classiques. C'est à partir de là que vous avez établi...
Si on analysait les voitures et on disait c'est quoi les paramètres d'une bonne voiture, il faudrait aller voir les Formule 1, puis pas se poser de questions, juste de faire l'énumération des paramètres de qu'est-ce qui fait que la Ferrari gagne toutes les courses. Bon, alors, une fois que tu as fait ça, tu dis, bon, OK, ça, c'est l'ultime d'une voiture.
Mais vous savez, comme moi, qu'une Formule 1, c'est pas très utile en ville.
Ben oui, c'est très utile en ville.
Une Formule 1?
Ben, je comprends donc. Ouais. S'il n'y avait pas toutes les lois d'aérodynamisme qui ont été trouvées grâce à la Formule 1, si vous n'avez pas tous les mécanismes informatiques de transmission et de choses comme ça, et d'injection de l'essence qui ont tous été trouvés dans les Formule 1, si les gommes des pneus faites pour les différents revêtements n'avaient pas tous été trouvées en Formule 1, vous n'auriez pas les voitures dans la rue que vous auriez aujourd'hui. Non, c'est clair que on consomme en fonction des niveaux d'excellence trouvés à l'occasion de la fabrication des chefs-d'œuvre.
Ma vie, c'est une longue usure. sans toi sinon que de mourir.